la 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 actualité.
Bonjour et bienvenue dans notre chronique actualité, une chronique d'actualité et de vérité. Aujourd'hui, nous allons parler des intelligences artificielles et de leurs impacts dans notre vie quotidienne. En effet, les intelligences artificielles sont de plus en plus présentes dans notre quotidien, mais également dans les industries. Donc aujourd'hui, nous nous interrogeons sur les avantages et les inconvénients des IA en opposant différents points de vue. Bonjour à tous. Nous sommes donc accompagnés pour ce débat, pour commencer, de Frédéric Vandamme.
Bonjour, merci de m'accueillir sur ce plateau pour parler d'un sujet dont bon nombre de nos concitoyens se posent des questions.
Vous êtes donc député de l'Essonne et vous trouvez que l'IA est une bonne chose pour aider l'homme dans ses prises de décision. Oui. Vous parlez même de projet de loi pour intégrer l'intelligence artificielle dans votre métier, mais sans passer l'homme au second plan. Merci à vous d'être présent. Nous sommes également accompagnés aujourd'hui de Charles Poisson.
Bonsoir.
Bonsoir. Vous avez donc 51 ans. Vous êtes père de deux enfants et professeur de philosophie au lycée Pierre-Adrien.
C'est ça.
Vous n'aimez pas trop le changement que l'IA provoque dans la future génération. Et c'est dans cette idée que vous travaillez avec vos élèves en cours. Sur les dangers possibles des intelligences artificielles.
C'est ça. En effet, il y a beaucoup de points négatifs à l'arrivée de l'IA aujourd'hui.
Très bien. Nous reviendrons vers vous un peu plus tard, car nous sommes également accompagnés par Martin Vickers.
Bonsoir à vous.
Vous travaillez dans l'industrie. Vous êtes même le cofondateur de l'industrie Scortex.
C'est exactement
Scortex,
ça.
Qui est une entreprise qui digitalise l'inspection qualité.
Exactement.
Ce qui correspond un peu à automatiser les tâches d'inspection visuelle, notamment dans l'automobile, dans la chaîne de production. C'est une entreprise créée en 2016 et localisée à Paris.
C'est exactement ça.
Merci à vous d'être là également. Et pour finir, nous avons Sylvester Dodd.
Bonjour.
Vous avez donc 38 ans et vous êtes un expert en intelligence artificielle. Vous avez étudié à Cambridge. Et il y a très peu de temps, vous avez publié un article d'une centaine de pages sur les dangers du développement de l'intelligence artificielle.
C'est exactement ça. Pour moi, l'intelligence artificielle est vraiment le problème de notre société actuelle et de notre société future.
Très bien. Donc merci à vous quatre d'être présents. Donc avant de commencer ce débat, j'aimerais parler un peu à nos auditeurs. N'hésitez pas à participer au WooClap avec le code IA Effect. Pour choisir votre meilleur débatteur et également parler de l'effet des intelligences artificielles. Pour commencer ce débat, nous avons un de nos followers sur Twitter qui nous a posé une question qui est: comment qualifieriez-vous l'impact de l'intelligence artificielle dans nos vies et nos pensées? Donc pour commencer, j'aimerais que Charles Poisson, vous qui êtes prof de philosophie, nous parliez un peu de ce sujet.
En effet, l'impact des intelligences artificielles dans nos vies va en soi les révolutionner nos vies. On peut notamment noter une perte des savoir-faire de l'humain si plus tard les intelligences artificielles feront tout à notre place et nous, on n'aura plus rien à faire et on aura, notamment dans le travail manuel, tout ce qui est les travaux artisanaux et tout, eh bien, si c'est les intelligences artificielles qui font tout ça à notre place, on va avoir une perte de savoir-faire.
Pour réagir directement à ce que vous dites, excusez-moi, mais dans mon entreprise, nombre de travaux nécessitent beaucoup de temps et de précision. C'est un travail certes manuel et que les gens connaissent, mais ça n'a rien d'intéressant. C'est un travail, c'est extrêmement intéressant pour nous de le proposer, de faire ça par des intelligences artificielles qui sont bien plus compétentes que des hommes et les hommes prennent beaucoup plus de temps que des machines pour réaliser ces mêmes tâches.
En effet, mais les intelligences ne sont pas fiables à 100%. Il y a un risque d'erreur et celles-ci peuvent causer des...
L'homme n'est pas fiable à 100% non plus.
En effet. Mais l'intelligence artificielle ne s'auto-corrige pas alors que l'homme, lui, peut rattraper l'erreur.
Pour en commettre un plus grand nombre.
J'essaye encore de présenter un peu mon entreprise. Et c'est un travail de contrôle. Donc c'est un travail répétitif. L'homme, dans un travail répétitif, perd sa concentration. La machine, elle a aucunement ce problème. Elle va à chaque fois elle va faire la même tâche et s'en rend même pas compte. C'est fait, c'est bien fait.
Vous parlez de la perfection de la machine.
Voilà. La machine est beaucoup plus perfectionnée dans certains domaines que l'homme ne le sera jamais.
Mais du coup, l'homme, dans tout ça, quel rôle il a, lui ? Si la machine fait tout à sa place, qu'est-ce qu'il doit faire ?
L'homme a encore un rôle à gérer. Les machines, certes, font des travaux à la place des hommes, mais elles ne s'entretiennent pas toutes seules. Les hommes sont là pour contrôler si les machines font bien leur travail. Aucunement, les hommes ne perdent pas du tout leur place dans l'entreprise.
Ils évoluent comme
les postes avec dans mon entreprise évoluent. Les hommes montent, ont plus de responsabilités et les machines font des travaux rébarbatifs que les hommes ont du mal à faire.
Donc comme vous l'avez dit, les hommes ont plus de responsabilités.
Oui.
Donc plus de responsabilités dit plus de formation et plus de qualification. Et tout ça, ça a un coût et tous les hommes ne peuvent pas forcément accéder à ces formations. Et...
Notre entreprise
Merci
propose...
à vous deux. On va commencer à donner la parole aux autres. Est-ce que, pour commencer, Frédéric Vandamme, vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ce qui a été dit pour l'instant ?
Je souhaiterais juste appuyer sur M. Poisson. Donc, vous inculquez à vos élèves vos valeurs. Vous ne leur laissez pas faire leur propre image de l'intelligence artificielle. Vous leur en racontez que les méfaits. Vous n'apprenez pas à vos élèves qu'elles servent notamment énormément dans un domaine économique. Elles sont très rentables. Elles sont plus fiables que l'homme. Et si elles ne sont pas 100% fiables, c'est aussi en partie à cause de l'homme, car c'est lui qui les programme, c'est lui qui les maintient. Et je trouve ça indigne d'apprendre cela à des élèves en tant que professeur de philosophie.
Alors, pour me défendre, je ne les force pas à avoir la même opinion que moi. Je leur expose juste les faits de la réalité et ils les prennent en conséquence ou non. Et c'est eux qui font leur propre opinion sur ce sujet.
Vous montrez aussi les bienfaits de l'intelligence artificielle à vos élèves ou que les méfaits ? Je pense avoir ma réponse.
Que les actes ? Que les actes des machines, j'imagine. Merci à vous trois. Et vous, Sylvester Dodd, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à cette question ?
Moi, je suis d'accord sur le fait que les IA peuvent aider au travail réparatif, ils peuvent soulager les hommes. Cependant, il a été prouvé que ça a fait perdre de l'autonomie aux hommes de façon générale. Et que pour tout ce qui est artisanat, c'est une concurrence qui est extrêmement rude. Parce que maintenant, on cherche à avoir une production qui est très exponentielle grâce aux IA, si je puis dire. Cependant, il y a beaucoup de métiers qui se perdent à cause de ça.
Bien, selon moi, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Aujourd'hui, nos clients, ce qu'ils veulent, c'est de la productivité. Ils veulent leur matériel, il faut qu'on leur produise. Si on veut garder le marché en France, on n'a pas le choix. Il faut qu'on produise plus, et pour ça, il n'y a pas 1000 solutions. Il faut utiliser des machines, des intelligences artificielles. Elles vont plus vite. Sinon, on se fait prendre par la concurrence. On n'a aucune solution face à ça.
Je vous reprends par rapport à ce que vous êtes en train de parler. Est-ce que, du coup, cela ne va pas créer une sorte de dépendance envers l'intelligence artificielle, Frédéric Vandamme ?
Je ne pense pas qu'on peut parler de dépendance dans des cas comme ça. On est assisté par l'intelligence artificielle, mais on en a un réel besoin. On est 7 milliards sur Terre, nous avons besoin de produire plus pour plus d'humains. Sinon, on devrait faire des
restrictions.
Des restrictions. Devoir réguler une population. Et on ne peut pas se permettre de faire ça de nos jours.
Et vous pensez que ça va continuer dans ce sens-là ?
On évoluera de plus en plus. Je pense qu'on a énormément besoin d'évoluer technologiquement pour appréhender la future démographie de la population. qui est en constante augmentation.
Très intéressant.
Excusez-moi, mais si les IA font tout à notre place, le problème c'est qu'on perd un savoir-faire. Et donc même si on peut produire plus, on peut moins évoluer parce qu'on ne sait pas comment ça se fait à la base, les produits. Parce que plus personne n'en est capable. Tout le monde a le niveau trop élevé et personne ne sait comment tourner sur un tour à voie, tourner une pièce. Et ça devient un problème dans le futur parce qu'on va avoir des ingénieurs qui vont vouloir créer des objets, mais au final, personne ne sait les faire soi-même. Alors c'est bien d'avoir plus de productivité ou quoi, mais pour autant, le savoir-faire est tout de même très important à mon avis.
Je ne pense pas que le savoir-faire sera perdu. On a évolué au cours des années, on a quand même gardé le savoir-faire. Depuis la préhistoire,
oui, on a continué à le faire.
On a appris à faire du feu à la préhistoire.
Oui.
On sait toujours le faire.
Parce qu'on a continué à le faire par nous-mêmes.
On continuera à faire cela, assisté par des intelligences artificielles.
Ce sera plus par nous-mêmes, du coup.
Le fermier qui ne laboure plus la terre avec son râteau, il est assisté par un autoculteur. Est-ce que c'est vraiment un problème grave qu'il ne sache plus labourer la terre à la main?
C'est un... son tracteur tombe en panne, comment il fait?
Il en rachètera un.
Merci à vous deux.
Mais entre-temps,
Merci. Charles Poisson, est-ce que vous avez un avis sur le sujet qu'ils sont en train d'aborder?
Alors, on a abordé le thème du savoir-faire, mais vous êtes bien au courant que ces intelligences artificielles polluent beaucoup. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec la population qui grandit de jour en jour dans l'avenir, vous ne pensez pas qu'il y a un problème qui se pose avec la pollution des IA et l'avenir de des futurs hommes?
Avant que quelqu'un réponde, par rapport à ça, faut-il du coup se protéger face à cette évolution ou plutôt s'engager complètement dedans?
Bien, selon moi, si vous voulez, aujourd'hui, on est dans un pays où nous-mêmes, on peut se protéger des intelligences artificielles. Mais c'est pas parce que nous le faisons que les pays voisins, les Chinois par exemple, eux le feront. On peut pas se protéger toute la Terre, un ensemble de populations, des intelligences artificielles. Et c'est pas à notre échelle qu'on va faire changer quelque chose. On peut essayer d'influencer, mais à notre échelle, on peut pas se permettre de se passer des intelligences artificielles. C'est pas ça ne changera presque rien au niveau de l'échelle mondiale. Et par contre, nous, d'accord, à notre échelle, on se fera écraser.
Très bien. Vous vouliez rajouter quelque chose, Frédéric Vandamme?
Si je peux me permettre, je ne suis pas totalement d'accord avec mon collègue. Nous n'avons pas besoin de nous protéger de quelque chose qui n'est pas néfaste envers nous. L'intelligence artificielle ne nous fera aucun mal. Il ne faut pas voir ça comme le malheur, la fin d'une vie, la fin d'un cycle. C'est le début d'une évolution pour l'homme. Elle est là pour nous aider.
Alors, mais Charles Poisson parlait tout à l'heure de la pollution.
Je suis content que Charles Poisson pose cette question. L'intelligence artificielle et le développement technologique n'est pas la principale source de pollution. L'homme a pollué bien avant. On a l'industrie automobile, les voitures, le gasoil, les banques, tout ça pollue. Il n'y a pas que l'intelligence artificielle. Si on construit intelligemment et durablement notre savoir-faire des intelligences artificielles, on n'aura pas de problème de pollution plus tard.
Alors, excusez-moi, mais j'ai un autre exemple pour contrer ce que vous dites. Mm-hmm. Alors, l'autre fois, en cours, j'ai posé à mes élèves, vous êtes au courant que les voitures maintenant sont dotées d'intelligence artificielle. Et imaginons, elle a le choix entre renverser un cycliste et renverser une mamie qui traverse le passage piéton. C'est la voiture qui va faire ce choix-là. Vous êtes vraiment conscient qu'une machine va décider de la vie ou de la mort d'un être vivant?
Alors, je suis content que vous posiez cette question. Si la machine doit prendre en compte certains calculs et paramètres, je vais être cru, désolé pour nos auditeurs, mais la mamie devra y passer. Elle a eu une vie certaine, mais si ce jeune cycliste et la machine déterminent qu'elle doit faire un choix pour sauver quelqu'un, épargner, si elle doit aussi prendre en compte qu'elle doit épargner les gens qui sont au sein de cette voiture, elle le fera. Et c'est pas forcément une machine, ce sont des calculs faits par une machine et que je rappelle ont été programmés par un homme. On en revient à l'homme, la machine ne se programme pas toute seule.
Donc selon vous, c'est l'homme le responsable dans cette situation? C'est le programmateur de la voiture qui est responsable de la mort de la mamie?
C'est une question d'éthique très compliquée. J'ai un avis sur la question, chacun aura un avis différent. mais je pense parler au nom de l'ensemble des Français, ou une majorité du moins, c'est la machine qui décide parce que l'homme. Donc je dirais que la faute en vient à l'homme.
Alors, si je peux me permettre, au niveau de la sécurité, vous dites que il n'y a aucun problème avec les IA ni rien, mais mes confrères scientifiques chez Google m'ont affirmé qu'aujourd'hui, l'algorithme de Google est tellement développé qu'ils n'arrivent même plus à le comprendre. Et à partir de ce moment-là, quand on ne comprend plus les IA auxquelles on a affaire, comment ça se passe ?
Alors déjà, je pensais que la plupart des scientifiques, j'en suis même sûr, sont pour l'intelligence artificielle. Donc vos collègues scientifiques...
Ce n'est pas mon cas.
Ce n'est pas votre cas, vous êtes une minorité. Peut-être qu'il y a une raison pour cela. Ensuite, si vos scientifiques de chez Google ne comprennent plus leur propre création, est-ce que le problème ne vient pas d'eux et non une fois de plus de la machine ?
C'est parce que le programme est devenu actuellement extrêmement vaste et ils ne peuvent pas tout comprendre. Le programme en arrive à un état où il apprend par lui-même.
Actuellement, excusez-moi, mais actuellement, un algorithme, ça se code pas tout seul. La machine va pas essayer de recréer d'autres parties d'elle-même.
Voilà.
C'est comme un homme, il va pas essayer de se faire repousser un membre. C'est impossible. Les machines, certes, elles sont très complexes, mais toutes les lignes de calcul sont des lignes de calcul. Elles ne peuvent pas se rajouter elles-mêmes. La machine a des limites. Elles ont été fixées. Si les développeurs de l'intelligence artificielle de Google ne parviennent plus à comprendre tout ce qu'elle arrive à faire, il faut revenir aux bases, c'est eux qui ont codé ce qu'elle fait. Elle ne peut pas se développer toute seule.
Oui, mais je continue sur ma lancée. Quand on arrive à ce point-là, on peut se poser la question de que font les intelligences artificielles dans notre vie et quels risques elles peuvent nous apporter. Si on ne comprend plus ce qu'elles font, elles peuvent tout faire. Et à ce moment-là, elles peuvent devenir dangereuses pour nous.
Je vois que ça tourne un peu en rond. Passons sur un autre sujet, cette perte de savoir-faire que provoque cette évolution de l'intelligence artificielle. Est-ce que notre cher Charles Poisson peut nous en parler ?
Bien, comme j'ai dit tout à l'heure, je répète mes propos, mais l'intelligence artificielle, si elle fait le travail de l'homme, l'homme va perdre ce savoir-faire et au final...
Est-ce que vous avez des exemples, monsieur ?
Désolé, mais notre personnel doit monter en qualification, certes, mais à l'origine, toutes les personnes qui sont maintenant en charge de surveiller et de contrôler ce que font les machines sont à la base des ouvriers. Ils ont toutes les connaissances du travail manuel. C'est eux, à la base, qui créent les algorithmes. Enfin, ils viennent en aide aux développeurs pour permettre aux algorithmes de travailler comme si eux le faisaient. À l'origine, tout le savoir-faire vient de l'homme.
Et du coup, il faudrait avoir des connaissances pour permettre d'utiliser ces machines. Et cela ne va-t-il pas provoquer des inégalités entre personnes ?
C'est pour ça que toutes les formations que nous proposons à nos employés prévoient des formations dans le métier que l'intelligence artificielle va remplacer. C'est-à-dire que une machine qui va être en charge de faire du tournage, la personne qui sera en charge de cette machine saura elle-même comment faire du tournage. On ne peut pas surveiller une machine si on ne sait même pas comment elle fonctionne.
Donc, et est-ce que si on continue dans cette évolution, est-ce que ce ne sera pas une machine qui donnera les formations ? Et est-ce qu'on ne va pas perdre ce contact humain entre nous ? Est-ce que l'évolution ne veut pas aller trop loin ?
Je ne pense pas. Honnêtement, si aujourd'hui le savoir se transmet, c'est les machines sont juste des assistances, mais voyez-vous aujourd'hui dans des écoles. C'est pas des machines qui nous apprennent et au jeu, ce sera comme ça.
Pas encore.
Pas encore.
Ce sera à voir dans le temps effectivement. L'accessibilité qui est de plus en plus importante est vue comme un danger ou une amélioration dans notre condition de vie. Vous, Frédéric Van Damme.
Moi, j'aurais bien voulu revenir sur le sujet d'avant.
Allez-y.
Qui a été passé. Je suis d'accord avec mon collègue. Monsieur Vickers, nous réfléchissons nous-mêmes avec mes camarades députés pour récupérer des fonds et les investir dans l'intelligence artificielle et aussi dans des formations pour les industriels. Parce qu'on pense à nos sociétés françaises qui ont besoin de sous pour réhabiliter leur main-d'œuvre pour être capable d'utiliser ces intelligences artificielles.
Mais excusez-moi, est-ce que vous avez pensé aux petites entreprises qui n'ont pas les moyens de se payer justement ces intelligences artificielles ?
Les fonds dont je viens d'en parler ne servent pas qu'aux grandes entreprises. Elles servent aux petites entreprises. Tout le monde y aura le droit. Donc à son échelle.
Donc vous subventionnez des petites entreprises pour qu'elles puissent acheter ces nouvelles technologies ?
Bien sûr. Okay. Et vous pourrez en parler à vos élèves de cela.
Monsieur Lucas, vous disiez qu'actuellement, les ouvriers étaient là pour surveiller que la machine faisait bien son travail, pour pouvoir ensuite en reparler aux programmeurs, pour qu'ils puissent changer le programme de la machine si besoin.
Exactement, c'est bien ça.
Cependant, une fois que la machine sera capable de faire exactement leur travail, ils seront plus utiles, ces ouvriers-là.
Un algorithme, c'est n'est jamais sûr à 100%. Il y aura toujours, en tout cas dans mon entreprise, il y aura toujours, je dis bien toujours, un homme pour surveiller les machines. On ne les laissera jamais toutes seules. Parce que certes, elles sont beaucoup plus fiables qu'un homme, mais on ne peut pas se permettre de robotiser à 100% une entreprise. Ce serait infaisable.
Donc vous payez des gens à regarder une machine travailler.
On ne les paye pas à regarder, on les paye à contrôler. Nuance.
Et même, je me permets, je cite un de vos collègues, un éminent scientifique, Najib Najib, qui a dit « L'automatisme ne supprime pas de postes. Il les remplace. Il ne les supprime pas. »
Il les remplace. Mais ceux qui sont remplacés par ces machines-là, il faut qu'ils évoluent. Mais toute personne n'a pas forcément la capacité d'évoluer.
Intellectuelle. La capacité intellectuelle d'évoluer.
En France, nous avons de nombreux problèmes, tels que le chômage, ces postes qui vont être supprimés, ces gens qui n'arriveront pas à s'adapter, il y en aura, je le conçois. Très peu, c'est sûr. Ces gens-là auront toujours du travail.
Parce que, excusez-moi, mais c'est pas parce qu'il y a des grandes entreprises qu'il n'y a pas de petites entreprises à échelle plus petite qui continuent de favoriser le travail manuel. Je ne dis pas que le travail manuel doit disparaître. Je dis simplement que nous, pour faire face à une concurrence toujours grandissante, on n'a pas le choix. Celle-là, c'est une question de choix. Mais une entreprise qui veut simplement vendre du produit de vraiment grande qualité, fait main, et que les gens recherchent à nouveau aujourd'hui en France, il y aura toujours des personnes qui auront le savoir manuel et il y aura toujours de l'emploi pour eux.
Excusez-moi, mais vous vous contredisez parce que vous dites que les machines sont plus précises que les hommes, et là vous dites maintenant qu'il y a des entreprises
Je dis simplement que dans mon entreprise, on a besoin de précision, mais il y a des. Face par un concurrent chinois, il va faire le même travail que nous, en étant un tout petit peu moins précis. Qui va être favorisé? C'est nous, simplement parce qu'on est un peu plus performant que les Chinois. Mais un marché qui n'a pas de concurrence en Chine. Des jouets en bois, des objets du quotidien qui n'ont pas besoin d'une grande précision et qui peuvent être réalisés manuellement. Il y aura toujours des personnes pour faire ces objets-là.
Merci bien. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Charles Poisson, par rapport à ce qui est en train d'être dit?
Non, je pense qu'on aborde à peu près tout.
D'accord. Est-ce que quelqu'un voudrait parler de la sécurité? Dans le sens militaire et également...
Je ne suis pas expert du tout dans ce domaine-là, je ne saurais pas vous renseigner. Salut.
Très bien.
Personnellement, connaissant d'autres scientifiques qui sont plus axés sur tout ce qui est sociologie et éthique, dont Éric Massur, ils ont écrit des thèses comme quoi les machines pouvaient devenir extrêmement dangereuses pour les hommes au niveau de l'armée notamment, parce que les machines aujourd'hui, les machines pour l'armée, ont la possibilité de choisir de tuer une personne ou non.
Et du coup, ça relance sur le sujet de la responsabilité par rapport à l'intelligence artificielle.
On en revient au même sujet tout à l'heure. tous les algorithmes sont codés par des hommes. C'est la machine, ce n'est qu'un objet de l'homme. C'est l'homme code ce qu'il veut, la machine s'exécute. La machine n'a aucune responsabilité.
Cependant, on autorise à des machines d'avoir cette possibilité-là de tuer parce qu'on autorise ces algorithmes d'exister.
Si la machine en juge bon.
Donc selon vous, un homme qui on va dire 100 000 machines militaires qui vont tuer des hommes. Ces machines vont tuer, on va dire 100 000 personnes. Cet homme-là, à lui tout seul, va porter le poids de 100 000 meurtres.
Ça sera dur à porter, mais ce ne sera pas un homme dans ce cas-là. C'est l'armée dont on parle, ce sera un État. Et si c'est une machine qui tue 100 000 personnes, c'est pour éviter que 100 000 personnes s'entretuent et de faire 200 000 morts.
Donc c'est la responsabilité de l'État.
C'est la responsabilité de l'État, en tout cas comme ça.
Après, je pense également qu'il n'y a pas qu'une seule personne qui va programmer tout un robot militaire.
Il y aura un programme pour plusieurs machines.
Ne sera-t-il pas la faute de la société ? C'est une question à se poser.
Si je peux répondre de l'importance de l'IA, j'attendais d'attendre leur avis. On a aussi des développements pour les exosquelettes, pour l'armée, l'IA, qui nous apporte de bonnes choses. Si on... Grâce à l'IA, on peut améliorer notre armée et faire tout simplement de la dissuasion. On ne va pas aller tuer des gens, c'est de la dissuasion, c'est comme l'arme atomique. Quand on l'a créée, c'est pour de la dissuasion. C'est pour éviter ce contexte de guerre et tout ça. Donc, avec des exosquelettes, ça fait diminuer les tensions entre les pays. S'il y a des armées qui sont plus puissantes que d'autres, ou tout simplement s'ils savent que s'il y a un conflit, il y aura une guerre totale, et ça sera la fin de tout.
Et donc ça veut dire que les premiers hommes qui ont créé des armes l'ont fait uniquement pour dissuasion, mais dans ce cas-là, pourquoi y a-t-il eu des guerres ?
Là, on entre sur un autre débat, et, pardonnez-moi, mais là on part sur des débats, c'est de l'idéologie. En ce moment, on n'a plus de guerre, les guerres c'est des guerres idéologiques, il n'y a plus de guerre de territoire.
Dans ce cas-là, pourquoi s'armer ?
Je peux me permettre de répondre si l'animateur...
Allez-y.
L'arme un débat. A été créée. Certes, ça n'a pas servi, était assez utile en tant que dissuasion, car elle n'avait pas un impact assez grand. Une arme tue 200, 300, 4000 personnes. On est 7 milliards. La bombe nucléaire, elle, on sait, elle fait des dégâts monstrueux, colossaux. Il n'y en a pas eu vraiment de lancée, il y a eu de la bombe atomique. Et on a vu les dégâts que ça fait peur. Quand on sait que certains pays peuvent en avoir 3000, on n'est pas à côté d'un petit fusil qu'un chasseur pourrait savoir.
Évidemment, mais au début de la création de l'homme, les premières armes, c'était énorme. C'était comme la bombe nucléaire actuellement pour nous, pour ces hommes-là.
Qui ne tuaient pas autant de gens. Je pense que quelqu'un avec un fusil peut faire énormément de dégâts, mais quelqu'un avec une lance...
Ce n'est pas la même échelle.
C'est pas du tout la même chose. Quelqu'un avec une lance peut faire quelque chose en face de quelqu'un aussi, avec un fusil, ou quelqu'un, 100 personnes qui ont des lances peuvent faire quelque chose en face de quelqu'un qui a un fusil, que 1 million de personnes qui ont des fusils ne peuvent rien faire contre quelqu'un qui est à l'autre bout du monde avec un bouton sur une bombe atomique. Pour en tirer sur la bombe atomique, je pense pas que ça fera grand chose. Le combat n'est pas le même.
Merci beaucoup pour ce débat. Donc nous avons donc terminé. Je vous invite donc à nous suivre sur nos réseaux, dont Twitter. Et à bientôt pour une nouvelle chronique de l'actualité, une chronique d'actu et de vérité.